France Culture.
Réplique, wokisme, anti-wokisme, avec Emmanuel Hénin et Alain Policard. C'est après une très vive polémique et malgré de fortes pressions que les puffs ont finalement décidé de publier le livre codirigé et préfacé par Emmanuel Hénin « Face à l'obscurantisme woke ». Avant que la discussion ne s'engage avec le politiste Alain Policard, auteur notamment d'un essai intitulé « Le wokisme n'existe pas, la fabrication d'un mythe », je voudrais, Emmanuel Hénin, que vous nous racontiez les tribulations de votre ouvrage. Emmanuel Hénin.
Ce livre est une commande de Paul Garapon, le directeur des PUF, remontant à 2022. Il avait d'ailleurs proposé de l'intituler « Manifeste anti-woke ». Il devait être imprimé le 26 mars. Mais le 10 mars, nous découvrons par voie de presse que les PUF déprogramment la publication. Libération titre « Les PUF suspendent la parution d'un livre anti-woke aux obsessions trumpistes ». Et le Nouvel Obs, à deux doigts de se trumpiser en publiant un pamphlet anti-woke, les PUF rétropédalent. L'éditeur nous envoie ensuite un mail invoquant un contexte défavorable. Les annonces par Trump de coupes massives dans le budget des universités et l'organisation, trois jours plus tôt, au Collège de France, d'une journée de mobilisation pour la liberté académique « Stand up for science ». Et durant cette journée, l'historien Patrick Boucheron avait jeté un anathème sur notre livre et sur les PUF tout entier en nous traitant d'idiots utiles du trumpisme. Boucheron lui-même a dû être le premier étonné de son pouvoir. En réalité, nous découvrons plus tard que les PUF étaient soumises depuis plusieurs semaines à de fortes pressions de journalistes notamment qui comptaient dénoncer la parution de ce brûlot. La presse s'est néanmoins mobilisée pour s'émouvoir de cette censure préventive de sorte que les PUF ont fait machine arrière et décidé de nous publier au grand dam de nos censeurs. Journée noire pour la démocratie, le livre paraîtra. Le 1er mai, le siège de l'éditeur est vandalisé avec des collages « Féministes contre la propagande fasciste ». Ainsi, en 2025, au nom de la liberté académique, on peut censurer un livre sans en avoir lu une ligne, sous prétexte qu'il fait le jeu d'un président américain dont personne ne pensait au moment de la rédaction qu'il serait élu. Cette censure néanmoins présente deux grands avantages. D'une part, elle assure une publicité formidable au livre. Le premier tirage s'est écoulé en 24 heures, nous en sommes au quatrième, plus de 20 000 exemplaires ont été vendus. D'autre part, elle nous donne raison sur toute la ligne. Nous avions dédié l'ouvrage à toutes les victimes de la censure et nous le devenons nous-mêmes. Nous dénoncions le remplacement du débat par le pur rapport de force, nous en avons eu la preuve. Désormais, les clercs de la République des Lettres ne pensent qu'en termes de pouvoir et d'agenda politique. Et même depuis l'apparition du livre, les journalistes de Libé et du Nouvel Obs ne l'ont pas davantage lu et ont continué à répéter comme des perroquets que nous étions des trumpistes.
Alors, Alain Policard, que pensez-vous de ces tribulations ? Quelles leçons en tirez-vous vous-même ?
Je dois dire, d'une part, que je suis opposé aux formes de censure et que, évidemment, si on ne publiait que des bons livres, peut-être y en aurait-il un peu moins dans les bibliothèques et ça serait peut-être dommage, car il faut aussi lire les pensées que nous n'approuvons pas. Moi, je suis très favorable, et c'est un principe essentiel, à la liberté d'expression, la liberté de création, la liberté de programmation et évidemment la liberté académique, qui n'est pas la liberté d'expression au sens strict. Et donc, je suis très heureux que ce livre ait été publié. Maintenant, il ne faut pas oublier les raisons pour lesquelles il a déclenché une polémique. On a mis en avant le financement de l'observatoire, autrefois décolonialisme, maintenant d'éthique universitaire, par le milliardaire Sterrin, qui le financerait depuis 2022. Or, 18 auteurs de ce livre, je ne sais plus combien il y en a, mais 18, c'est la très grande majorité, sont membres de l'observatoire. Cet observatoire, en matière de censure, n'a pas, je crois, de leçon à donner, puisque certains de ces textes ont pris à partie des gens considérés comme wokistes ou comme woke. J'en fais partie, même si je ne me reconnais pas comme tel. Et notamment, Pierre Vermeren, avec lequel j'avais débattu d'ailleurs assez courtoisement sur France Culture tout récemment, a fait de moi un représentant du patriarcat islamiste. Est-ce que j'ai une tête de patriarche islamiste ? pas.
Écoutez, non.
Non, hein, vous êtes d'accord.
Patriarche peut-être, mais moi
oui.
aussi. Alors cela étant, je voudrais partir, maintenant qu'on en sait un peu plus sur les vicissitudes de la parution du livre, partir de la définition du wokisme donnée dans l'ouvrage, justement, par Pierre Valentin. Le wokisme est une idéologie qui perçoit les sociétés occidentales comme étant fondamentalement régies par les structures de pouvoir, des mécanismes de domination, des systèmes d'oppression qui auraient pour but, et en tout cas pour effet, d'inférioriser l'autre, c'est-à-dire la figure de la minorité sous toutes ses formes, sexuelles, religieuses, ethniques, etc., par des moyens souvent invisibles. Le woke est celui qui est éveillé, c'est la signification de woke, à cette réalité néfaste et qui se donne pour mission de conscientiser les autres. Alors, j'imagine que vous êtes d'accord avec cette définition, Emmanuel Hénin, puisque c'est dans le livre, mais est-ce que vous pourriez élaborer un peu à partir de cette définition ?
Oui, alors, j'aime bien la définition que donne Chantal Delsol. Elle parle d'une quête éperdue des dominations cachées, puisque le problème, ce n'est pas d'être contre la domination ou la discrimination, mais c'est de l'identifier et de la définir. Or, le wokisme met tout sur le même plan, ou appelons-le comme vous voudrez, met tout sur le même plan grâce à un concept magique qui s'appelle l'intersectionnalité. Ce manichéisme consiste à diviser le monde en deux, comme dans un jeu vidéo, les gentils dominés et les méchants dominants. Et il repose sur deux piliers, la théorie du genre, selon lequel chacun détermine son genre, le sexe n'existe pas, et la théorie critique de la race, auquel s'ajoute le décolonialisme, c'est-à-dire l'idée que la France serait toujours un pays colonial, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. Donc c'est une grille de lecture caricaturale, hein, qui voit tous les rapports sociaux en termes de domination, le problème étant que cette domination n'est jamais définie. Oui. Et qu'on met sur le même plan le rapport entre hommes et femmes, entre noir et blanc, entre maître et élève, etc.
Et l'intersectionnalité permet en effet de rassembler les luttes de toutes les minorités contre le dominant par excellence, qui est le mâle blanc, l'intersectionnalité. C'est ça que ça veut dire que
c'est... Oui, c'est-à-dire le bouc émissaire. Alors peut-être qu'on peut à ce propos citer la fameuse affiche de la Marche des Fiertés, parce qu'elle est absolument l'illustration de cette intersectionnalité dans son utilisation révolutionnaire, puisque on y voit un groupe de manifestants contre l'international réactionnaire qui étrangle un mâle blanc, donc un homme blanc qui est mort, un cadavre, hein, et autour, vous avez des militants LGBT, une femme voilée et une militante pro-palestinienne.
Oui, c'est ça. Et donc, c'est contre l'international réactionnaire, queer de tous les pays, unissons-nous pour la Marche des Fiertés, qui doit avoir lieu, en effet, le samedi 28 juin de cette année.
Alors, je précise que de nombreuses organisations LGBT se sont désolidarisées de cette affiche. Ça ne représente absolument pas l'intégralité.
Mais peut-être est-elle révélatrice.
Voilà,
Anna Policard.
Oui, non, ça illustre bien une confusion majeure. La confusion majeure, c'est que mes interlocuteurs, en général, Emmanuel Hénin aujourd'hui, font du wokisme un système. Or, moi, je ne nie pas qu'il existe ce que mon ami Jean-Yves Franchet appelle des pathologies militantes. On confond, si vous voulez, système et comportement, ou tempérament. Ces pathologies militantes que d'autres pourraient appeler comportement stalinien, ça existe dans les mouvements sociaux et politiques depuis toujours, et ça n'est pas limité à la gauche radicale qui est souvent stigmatisée. Même si, personnellement, je ne me reconnais pas dans la gauche radicale, du moins telle que on l'entend généralement par le mélenchonisme. En l'occurrence, la question de la domination est essentielle, parce que, sous prétexte que tout n'est pas domination, ce que je pense, tout n'est pas domination, par exemple, l'antisémitisme ne s'explique pas en termes de domination, je crois qu'on ne peut pas en déduire que la domination n'existe pas. Plutôt que la définition de Valentin, qui est quand même un idéologue, il est membre désormais de la Fondation Burke, c'est quelqu'un qui pense vraiment avec le spiritualisme chrétien, moi, je préfère celle de Pierre-Henri Tawayo. Et lui, il met en avant, effectivement, la domination. Tout ne serait que domination. Bien non, tout n'est pas domination, bien sûr. Mais ce n'est pas parce que tout n'est pas domination qu'il n'y a pas de domination, encore une fois. Deuxième élément que Tawayo met en avant, c'est l'idée que l'Occident est le grand dominateur. Ben oui, l'Occident a joué un rôle très important dans la domination exercée à l'encontre d'un certain nombre de puissances subalternisées, périphérisées, si vous voulez, si je ne sais pas si l'adjectif existe, enfin périphérique en tout cas. Et puis également, un des éléments qui est mis en avant, c'est que nous ne verrions pas, nous les woke, nous ne verrions pas que les choses s'améliorent. Mais c'est quand les choses s'améliorent que la conscience politique prend forme. La révolution de 89, elle arrive à un moment où les choses vont un tout petit peu moins mal. Donc, des choses s'améliorent, nous ne nions pas, mais il reste beaucoup à faire en matière d'égalité des droits entre hommes et femmes. Il reste beaucoup à faire en matière de féminicide. Il reste beaucoup à dire en matière de viol, en matière d'égalité dans la recherche pour les femmes. Donc, tout ça reste tout à fait important et non négligeable. Donc, c'est pas parce que les choses s'améliorent que c'est suffisant. Par ailleurs, sur l'intersexualité, il faut quand même que je dise un mot, mais on en reviendra peut-être. Mais
L'intersectionnalité,
j'avale toujours une syllabe.
Ah bon, d'accord.
Sur l'intersectionnalité, effectivement, c'est une tarte à la crème, parce que vous savez qu'elle a été créée, cette notion, en 89 par Kimberlé Crenshaw, en 1989, oui. Mais auparavant, tous les gens qui faisaient les sciences sociales utilisaient le croisement de variables. Les sœurs Nardal, les militantes anticolonialistes dans les années 30, mettaient en avant aussi ces imbrications de domination. Donc l'intersexualité n'a strictement rien de nouveau, c'est une tarte à la crème, et on a transformé l'intersexualité en intersectionnalisme pour précisément le vilipender.
Emmanuel Hénin.
Alors je dirais que l'intersectionnalité, c'est un concept totalement militant, hein, qui est complètement révélateur de ce qu'on appelle le blanchiment d'idées, c'est-à-dire un concept inventé à l'université par cette Kimberlé Crenshaw, et qui dit que les dominations se potentialisent, s'additionnent. Et donc, si on additionne, en effet, le fait d'être noir, le fait d'être femme, etc., Michelle Obama est deux fois plus discriminée qu'un ouvrier blanc de Detroit au chômage. Donc, c'est un concept militant qui est utilisé comme tel. Par ailleurs, ce qui caractérise quand même cette approche woke, c'est la multiplication des angles morts. La traite négrière est traitée pour l'Occident, mais jamais on en parle pour l'Occident, jamais on ne parle de la traite intra-africaine, ni on parle de l'esclavage actuel en Afrique, ni de la traite arabo-musulmane. Le sexisme et le patriarcat seraient l'apanage du mâle blanc. Et donc, l'Occident est coupable de tout le mal et n'est coupable que de mal. Je vous demande, qui a inventé la démocratie, la liberté d'expression, l'égalité de tous les hommes, qui a aboli l'esclavage, qui a inventé la philosophie, la locomotive, le vaccin, etc. De vieux mâles blancs.
Oui, alors, justement, quand même, sur l'intersectionnalité, je crois que c'est un concept important parce que il est au cœur de ce que, personnellement, j'appellerais l'idéologie woke. Non pas religion woke. Le woke est défini comme une religion par Jean-François Brandstein, dans un livre demeurant intéressant. Mais religion, c'est une métaphore. Ce n'est pas vécu comme tel par ces militants dont nous parlons aujourd'hui. Et donc, pourquoi l'utiliser ? Idéologie est plus intéressant. C'est le mot de Hannah Arendt, la logique d'une idée. Alors, il y a une idée, en effet, au cœur du wokisme. C'est la domination. Et une domination qui est toujours celle, en effet, de l'Occident. Et là, je voudrais citer brièvement un livre d'Alain Badiou, « Le siècle ». Parce qu'il dit que le siècle, le XXe siècle, a prononcé que la loi, que sa loi était le « deux », l'antagonisme. Il y a un antagonisme central, deux subjectivités organisées à l'échelle planétaire, dans un combat mortel. Le siècle en est la scène. On pensait que c'était en effet le XXe siècle, mais avec les woke, ça devient aussi la caractéristique du XXe siècle. Le « deux » et sa loi, donc la domination d'un seul coupable à l'égard d'une multitude de minorités, alors qu'on aurait pu espérer, justement, avec la fin des totalitarismes, sortir de ce simplisme redoutable, le « deux » et la loi du réel, Alain Policard.
D'abord, Emmanuel Hénin, je suis désolé, mais tel qu'elle est définie par Kimberlé Crenshaw, l'intersexualité n'est pas un concept additionnel. C'est même précisé dans la définition même. Je rappelle qu'elle est juriste. Elle constate simplement qu'il y a dans le droit des mesures qui tiennent aux discriminations que subissent les femmes, des mesures qui tiennent aux discriminations que subissent les Noirs, mais il n'y a pas précisément de mesures qui tiennent compte de cette situation d'imbrication et de domination. Ce n'est pas additionnel, c'est précisé très clairement dans la définition et dans tous les commentaires qui ont eu lieu. Donc déjà, c'est une erreur grave que de prétendre que c'est additionnel, que c'est un concept militant, tout ça n'a guère de sens, puisque vous le transformez en concept militant. Il n'est pas par nature militant, il est par nature explicatif. Par ailleurs, vous appliquez une parfaite stratégie de l'épouvantail, vous créez un ennemi imaginaire en disant « on », jamais « on », mais qui est ce « on » ? En tout cas, ça n'est pas moi, parce que je ne me reconnais pas dans le portrait que vous en faites. D'abord parce que je ne suis pas décolonial, que je ne considère pas que nous soyons dans la même situation que dans la situation de colonialisme. En revanche, il y a des traces d'ordre colonial dans nos institutions, ou du moins dans nos rapports sociaux. Voilà. Et ça paraît difficilement quand on regarde la répartition de l'habitat, quand on regarde un certain nombre de répartitions des métiers, on voit bien que l'ordre colonial, tout de même, est encore présent. Et encore une fois, c'est au nom des principes de l'Occident, des principes universalistes, que je condamne précisément le manquement à ces principes. Donc par conséquent, je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire lorsque vous dites « jamais on ». Encore une fois, il y a des gens qui se comportent mal. Moi, je dis souvent que si j'avais été à Bordeaux en état de réagir lorsque la conférence de Sylvia Nagasinski a été empêchée, j'aurais tout fait pour qu'elle soit tenue, non pas malgré nos désaccords, mais en raison même de nos désaccords. Donc il n'est pas question de censurer qui que ce soit. Et cette accusation de censure me paraît relativement peu fondée dans la mesure où pour censurer, il faut avoir le pouvoir. Or, que je sache, ce ne sont pas les woke qui ont le pouvoir. Ce sont les Trumpistes et ceux qui les soutiennent. Ce sont les Poutiniens. Ce ne sont pas les woke.
Oui, mais la cancel culture n'est pas un vain mot, n'est pas un fantasme. Vous citez Sylvia Nagasinski, mais je pourrais citer aussi Céline Masson et Caroline Eliachef, qui remettent en cause la facilité donnée aux adolescents de changer de sexe. Elles sont accusées de transphobie et elles ne peuvent s'exprimer nulle part. Donc la cancel culture existe.
Il y a incontestablement des manifestations qui sont inadmissibles. Moi, je sais que lorsque les suppliantes des Chiles ont été interdites, j'ai écrit un texte collectif pour protester contre cette interdiction. D'abord parce que être des gens qui sont en noir, le visage peint en noir, ça n'est pas du blackface nécessairement, ça a été bien montré. Donc, je peux comprendre que des gens se trompent. Il y a des militants un peu empressés qui se trompent, mais les exemples que l'on donne sont toujours les mêmes. Philippe Forest, qui a écrit un livre anti-wokiste extrêmement informé, « Déconstruire, reconstruire », dit que lui, personnellement, n'a jamais été empêché de s'exprimer, qu'il ne connaît aucun collègue qui n'ait pas pu mener des recherches qu'il souhaite mener, et que lui-même dit « on sort toujours les mêmes exemples ». Il y en a une dizaine, c'est 10 de trop, hein, soyons clairs, c'est 10 de trop. Mais c'est toujours la même chose, si vous voulez. Alors qu'il y ait des comportements militants absolument inacceptables, je suis totalement d'accord avec vous. Mais ça ne fait pas du wokisme un système de pensée qui serait oppressif à l'égard de qui, je me demande bien.
Emmanuel Hénin.
Alors, je voudrais d'abord répondre sur la censure. Je vais prendre l'exemple du livre. Sur les 26 auteurs, deux sont absolument empêchés de s'exprimer dans l'espace public. Il s'agit de Céline Masson et de Florence Bergeau-Blaclair, dont toutes les conférences sont systématiquement
annulées. Oui, elle a écrit
sur le férisme, d'accord. Vincent Tournier a vu sa tête mise à prix sur les murs de Sciences Po Grenoble. Leonardo Orlando, son cours déprogrammé. Conclusion, 4 personnes sur 26. C'est pas complètement anecdotique. Par ailleurs, deux sujets sont absolument tabous, c'est-à-dire que personne ne peut s'exprimer publiquement dessus, c'est le genre, voire Éric Marty, Dora Mouto, Marguerite Stern, Masson Eliachef, Kathleen Stock, J.K. Rowling, etc. Et deuxièmement, l'islamisme, Gilles Kepel et autres, qui a vu son cours annulé, définitivement retiré de l'École normale supérieure. Donc on ne peut pas dire que ce soit un phénomène marginal. Sur ce point, je suis absolument formelle. Par ailleurs, pour revenir au radicalisme qui serait de tous bords, j'aimerais bien savoir d'abord quelles conférences nous avons annulées, quelles sont les perturbations aujourd'hui créées par les groupes d'extrême droite en France, quels sont les graves désordres et les graves dangers que pose l'extrême droite aujourd'hui.
En Inde, aux États-Unis, on n'interdit pas un certain nombre d'enseignements et l'extrême droite française se considère comme tout à fait fidèle à Trump et Trump actuellement empêche l'université d'Harvard de recevoir des étudiants étrangers. Trump empêche les subventions pour les sciences du climat et les sciences sociales et des gens en France parmi l'extrême droite et parmi tous les médias, parce que vous dites que vous êtes empêchés de vous exprimer, mais que je sache, il y a énormément de journaux et de médias audio-télévisuels qui sont favorables aux thèses que vous présentez. Si je peux faire une liste, Marianne défend vos thèses, Le Point défend vos thèses, L'Express modérément mais défend vos thèses, Valeurs Actuelles défend vos thèses, CNews défend vos thèses.
Attendez, moi je parle de l'université. Je parle de cours annulés à l'université.
Alors, les raisons pour lesquelles les cours sont annulés mériteraient d'être connues, parce que, en ce qui concerne le cas que je connais, hein, bon, Orlando, je ne sais pas, il fait un cours sur la biologie, sur la théorie de l'évolution, son cours n'a pas été reconduit, c'est un jeune chercheur, je ne sais pas quelles en sont les raisons. Quoi qu'il en soit, il y a aussi de problèmes des compétences, parfois, qui sont mis en avant.
Mais que pensez-vous, alors, Alain Policard, de ce qui est arrivé tout récemment avec... Fabrice
Balanche
à Lyon 2, il s'est prononcé contre la volonté de préparer une rupture du jeûne à l'intérieur, dans un local de l'université. Des étudiants masqués ont envahi son amphithéâtre et il a été obligé de quitter les lieux. Donc, ça révèle quand même une censure venue d'en bas, en l'occurrence d'étudiants, et peut-être l'existence d'une réalité que vous contestez, Alain Policard, celle de l'islamo-gauchisme.
Alors, sur le cas Balanche, j'ai déjà l'occasion, sur France Culture même, de dire à Pierre Vermeren que j'étais absolument opposé à ce qu'on empêche Balanche de s'exprimer. Je remarque simplement qu'il y a eu une pétition en sa faveur, mais il y a eu aussi une pétition en faveur de la présidente de l'université qui a recueilli des milliers de signatures parce qu'il se répandait sur les ondes en attaque contre l'université, disant précisément, j'en viens à votre question, que c'était un repère d'islamo-gauchisme. Alors, l'islamo-gauchisme, c'est aussi une invention. Après le politiquement correct, on a eu l'islamo-gauchiste. Maintenant, dans le wokisme, ça correspond effectivement à une suite, je dirais, cohérente. Alors, en ce qui concerne l'islamo-gauchisme, le terme a été inventé, en réalité, en Grande-Bretagne, par un trotskiste qui s'appelle Chris Hardman en 94. Il cherchait à mettre en avant le combat commun que pourraient mener l'extrême-gauche britannique et les musulmans. Bon. Ça a été un échec total. Alors, ça a été repris, ce terme-là, en 2002, je me trompe peut-être sur la date, par Taguieff, mais, en l'occurrence, l'islamo-gauchisme a servi surtout à Madame Vidal et à Monsieur Blanquer.
Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur.
Absolument, à faire la chasse aux islamo-gauchistes, dont j'étais, d'ailleurs. Encore une fois, moi, je ne suis pas gauchiste, je suis athée, et je n'ai aucune sympathie pour quelque religion que ce soit. Donc, on désigne comme islamo-gauchiste des gens qu'on veut faire taire. Ça, c'est bien aussi une histoire de censure. Je rappelle que le CNRS a considéré que le procès était absolument infondé.
Emmanuel Hénin.
Alors, je voudrais juste revenir sur l'amalgame que vous avez fait. Vous avez dit que nous étions trumpistes parce que nous étions d'extrême droite, que l'extrême droite française, ce qui est déjà gratuit comme affirmation, que l'extrême droite française est pro-Trump, donc nous sommes trumpistes, donc nous annulons, puisque aux États-Unis on annule. Bon, donc je voudrais juste que les auditeurs soient quand même conscients de cette pratique de l'amalgame, et je voudrais juste souligner un amalgame que vous faites dans votre livre. Vous parlez de la loi 1905, et vous dites, il y a aucune raison d'interdire les tenues islamiques dans les rues, puisque en 1905, on n'a pas interdit les soutanes. Alors, est-ce que vous imaginez que tous les catholiques en 1905 se promenaient en soutane? Vous voyez, donc ce genre d'amalgame,
c'est quand même un peu excessif. C'est une citation d'Aristide Briand. Écoutez,
oui, bah peu importe.
Mais non, mais Aristide Briand,
vous l'appliquez quand même aux tenues islamiques.
Mais non, j'applique rien aux tenues islamiques. Vous n'avez pas bien compris. Moi, je ne suis pas favorable au voile. En l'occurrence, je dis qu'on peut tolérer le voile, ce qui ne veut pas dire qu'on l'approuve, puisque par définition, la tolérance suppose la désapprobation préalable. Donc, je désapprouve le voile, mais je crois que pour des raisons politiques que je peux évidemment t'expliquer. Parce qu'il y a une alliance objective, comme on disait à l'époque du marxisme triomphant, entre les laïcistes intégristes et l'islamisme politique. Parce que l'islamisme politique dit aux musulmans, voyez, on ne vous aime pas, vous n'appartenez pas à la communauté des citoyens, mais à celle des croyants. Donc, au fond, cette chasse au voile me paraît improductive, contre-productive, dangereuse.
Oui.
Ça ne veut pas dire que je l'approuve,
oui,
le voile.
Mais d'un autre côté, vous contestez, Alain Policard, la réalité de l'islamo-gauchisme. Il y a peu de temps, quelques semaines, est paru le rapport sur l'entrisme des frères musulmans. Mmh. Un rapport quand même très nourri, très consistant, même si on peut contester certaines de ses préconisations. Eh bien, la réaction immédiate de la France insoumise, c'était de dire que c'est un rapport islamophobe. Il n'y a pas d'islamo-gauchisme, mais il y aura une islamophobie généralisée. Gabriel Attal interdit la baïa dans les lycées et les collèges. Islamophobie, dit-on. La loi d'interdiction du voile, est islamophobe. Et là, ça me fait penser à cette citation de Rushdie qui, aux dernières nouvelles, n'est pas trumpiste, et qui dit « quelque chose de nouveau était en train de se produire, la montée d'une nouvelle intolérance, elle se répandait à la surface de la Terre, mais personne ne voulait en convenir, un mot avait été inventé pour permettre aux aveugles de rester aveugles, islamophobie ». Et d'ailleurs, c'est pas forcément de l'aveuglement, c'est aussi un calcul, et un calcul électoral de la part de la France insoumise. Ça lui assure effectivement des élections
des électeurs
dans les territoires perdus de la République, pour reprendre l'expression de Georges Bensoussan. Donc tout ça quand même fait partie du tableau. Si vous ne croyez pas en islamo-gauchisme, ne faites pas tout vous trop confiance au concept d'islamophobie.
Alors, d'abord, je ne représente pas la France insoumise, dont je ne suis absolument pas membre,
oui.
Je suis même extrêmement critique,
hein, oui.
Notamment sur les dérapages antisémites, ou du moins les stéréotypes antisémites que Mélenchon accumule, sans percevoir, semble-t-il, que ce sont des dérapages antisémites. C'est d'ailleurs extrêmement important, c'est un antisémitisme dénégatif, on ne se rend pas compte qu'on l'est, parce que peut-être on manque de culture pour certains, mais c'est pas le cas de Mélenchon. Alors, l'islamophobie, je dois rectifier quand même quelque chose d'extrêmement important, c'est que l'islamophobie n'a pas été créée par les mollahs iraniens, comme on le dit bien souvent, comme Caroline Fourès a essayé de le faire croire. C'est un terme qui a été créé en 1910 par les administrateurs coloniaux français et qui désignait justement une attitude qu'ils considéraient comme néfaste. Ensuite, ça a été effectivement instrumentalisé à partir de la révolution iranienne, pour désigner, en quelque sorte, une attitude excessive d'hostilité à l'islam. Mais, encore une fois, le mot est un mot qu'on peut contester, parce que, évidemment, si on entend par islamophobie la critique rationnelle et légitime d'une religion, il n'y a plus de débat. Sauf que maintenant, le combat est perdu, le mot a un autre sens, et il est, grosso modo, synonyme de racisme anti-musulman. On aurait pu rester sur ce mot-là, on ne l'a pas fait. Mais enfin, encore une fois, il y a des mots qui sont mal formés et qui demeurent. Antisémitisme est mal formé aussi, sociologie est mal formée, et ça demeure néanmoins. Bon, encore une fois, l'islamophobie, en tant que racisme anti-musulman, est une réalité peu contestable. Et c'est pas parce que la France insoumise le dénonce qu'il faudrait ne pas le faire, encore une fois. Il y a un livre qui est paru il y a peu de temps qui s'appelle « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes ». En référence au mot d'ordre de droite ou d'extrême droite, disant la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Et ça parlait des intellectuels musulmans ou des musulmans qualifiés qui ne trouvaient pas place, finalement, dans cette société française. Je pense que nous avons un problème avec la différence, nous avons un problème avec l'altérité. Et je précise une dernière chose avant de laisser la parole, c'est que je n'ai pas dit que vous étiez d'extrême droite, j'ai dit que vous agissiez comme tel, mais je n'ai pas dit que je ne vous ai pas désigné comme étant d'extrême droite. Mais on peut avoir, effectivement, des positions qui sont relativement identique à celle que prend l'extrême droite sur ces questions de wokisme. Le trumpisme étant effectivement un exemple caricatural, mais il y en a bien d'autres. Quand on regarde CNews régulièrement, on voit bien ce qu'est l'extrême droite française et pas simplement américaine.
Emmanuel Hénin.
Rémi Braque, dans l'introduction sur l'islam, Rémi Braque, qui est quand même un grand savant, un grand connaisseur de l'islam, écrit « L'adjectif islamophobe n'est déshonorant que pour celui qui l'emploie, car il nuit gravement à la pensée ». Lui-même ayant quand même été traité d'islamophobe, lui-même grand savant. Le problème de l'islamophobie, c'est justement qu'elle est utilisée comme un écran pour interdire toute critique de l'islam radical, mais aussi de la recherche sur l'islam, de la recherche...
Bien sûr que non,
non,
comment dire, sur l'islam.
Qui ne serait pas faite de l'intérieur par des musulmans, etc. Alors, votre livre, par ailleurs, contient beaucoup de contradictions qui montrent que vous êtes parfaitement conscient des limites du wokisme et qui me donne l'espoir que d'ici quelques années, vous écriviez un livre anti-wok. Sur l'islamophobie, vous dites, précisons qu'il est évidemment inacceptable de brandir l'islamophobie, etc. Sur l'antisémitisme, que l'antisémitisme, bien sûr, il n'existe pas chez les musulmans, sauf qu'il se dissimule parfois sous le masque de l'antisionisme.
Je n'ai jamais dit qu'il n'existe pas chez les musulmans.
À peine, voilà. Il est il est néanmoins permis, donc l'intersectionnalité, c'est formidable, hein, c'est un concept qui ouvre tout, un sésame qui ouvre à la compréhension de tout, mais il est permis de regretter que l'intersectionnalité ait accordé une trop grande attention aux questions de genre et de race. Or, c'est précisément la fondation de ce concept, etc. Il faut le reconnaître, l'idée d'une culpabilité blanche héréditaire est parfois énoncée, alors qu'elle est quand même très souvent énoncée. Et donc, vous mettez des pierres d'attente, finalement, qui minent le raisonnement et qui permet de retourner complètement. Et puis, tout un chapitre sur les ornières de la wokeness. L'essentialisme inversé, le racisme à l'envers, le relativisme absolu, les identités...
Les ornières dans lesquelles elle ne doit pas tomber.
Oui, j'ai bien compris, mais dans laquelle elle tombe tellement volontiers que, en fait, elle l'est.
Mais alors, j'ai aussi un autre problème. C'est lié à ce que j'ai appelé l'idéologie woke. Vous faites une différence entre wokisme et wokeness.
Oui.
Vous vous reconnaissez dans le wokeness et pas dans le wokisme. Mais cette idéologie me semble aussi caractériser la wokeness. D'ailleurs, Alain Policard, vous rendez hommage au livre de Daniel Lindenberg, Le rappel à l'ordre, enquête sur les nouveaux réactionnaires. Livre paru en 2002, republié en 2016, défini par Pierre-Rosan Vallon, son commanditaire, comme un essai prémonitoire. Et c'était, après la parenthèse enchantée de l'antitotalitarisme, où tout le monde discutait avec tout le monde, eh bien, le retour des listes noires. Et sur la liste, des nouveaux réactionnaires figurent Pierre Manant, Marcel Gauchet, Jacques Julliard, Pierre Nora, Michel Houellebecq, Philippe Muret, la Dream Team. Alors, heureusement, j'y suis. Parce que j'aurais très, très vexé de ne pas figurer. Mais c'est pas pour ça que j'en parle. C'est pour un propos de Daniel Lindenberg, dans un chapitre intitulé « When Jews turn right », quand les Juifs tombent à droite, et il dit « ces porte-paroles de la communauté juive qui dénoncent avec une assurance qui ne laisse guère de place au doute ou à la contradiction une vague d'antisémitisme dont la réalité en tant que telle reste pourtant sujette à caution ». Il le fait donc à la fin d'une année 2001, où des synagogues et des écoles juives ont été incendiées à Clichy-sous-Bois, à Garges-lès-Gonesse et dans bien d'autres communes. C'est très intéressant parce que ça n'a pas sa place, justement, dans cette idéologie. Un antisémitisme venu des victimes, venu de ceux qui, de ceux des minorités qui sont effectivement les dominés. Les dominés ne peuvent pas faire le mal, les dominer, les opprimer. Donc, si ça existe, on préfère le nier, on préfère l'occulter pour préserver l'idéologie. Et il me semble que c'est un problème et que dans votre hommage au livre de Lindenberg, vous ne le prenez pas vraiment en compte.
Je vous l'accorde tout à fait. Alors, en l'occurrence, je parlais d'autre chose concernant effectivement ce que Lindenberg avait selon moi bien décrit, c'est-à-dire à partir de du chevènementisme, qu'on peut appeler le national-républicanisme, un virage à droite de certains intellectuels, très marqué notamment depuis 2015, mais qui était déjà en germe. Il s'est trompé sur l'antisémitisme, pour des raisons privées que je ne détaillerai pas, hein, mais en l'occurrence, il n'a pas vu ça, et aujourd'hui, il est difficile de ne pas le voir, ça c'est clair. Donc je ne suis pas d'accord sur ce point, je suis extrêmement clair là-dessus. Je suis personnellement très attentif à toute manifestation d'antisémitisme et je remarque aujourd'hui que il devient de plus en plus assumé. Vous aviez une autre question que j'ai perdu de vue, mais
c'était la question que j'avais en tête.
Non, je vais juste faire un commentaire sur Rémi Braque, parce que Rémi Braque est un grand penseur du christianisme, est un grand intellectuel, un grand spécialiste du Moyen-Âge. Il a écrit des choses très importantes sur des thèmes qui m'intéressent, notamment sur la question des universaux, mais il n'est pas effectivement extrêmement ami de l'islam. Il a fait un livre d'entretien avec mon ami Souleymane Bachir Diane qui montre qu'il ne comprend pas véritablement la pensée de Diane. Mais ça n'empêche pas que j'ai beaucoup de respect pour Rémi Braille. Mais il peut se tromper tout de même sur l'islamophobie. Chacun de nous peut se tromper. Nous disons toujours des bêtises.
Et pas aujourd'hui, pas encore. Emmanuel Hénin, vous voulez répondre ?
Oui, alors, à propos d'un certain aveuglement que je trouve dans votre livre, pourquoi consacrer un chapitre entier à l'antisémitisme sans mentionner le 7 octobre ? Le 7 octobre ne s'est pas passé. Le livre est paru en 2024 quand même. Et donc, moi, je reprendrai bien à votre propos l'expression de Christophe Guilluy, ce qu'a toujours fait la gauche, empêcher la réalité d'entrer en la fascisant en permanence.
Alors, écoutez, je suis à peu près sûr que le livre a été rendu avant le 7 octobre. J'ai écrit un article dans Le Monde sur le 7 octobre avec Anna Zielinska, qui désignait le Hamas comme un mouvement terroriste islamiste. Je ne suis pas ambigu de ce point de vue-là.
Non, sûrement. Alors, là, je voudrais aussi aborder un autre point sur le wokisme ou la wokeness. Et qui est très, ça il me semble c'est une idéologie très répandue dans l'université et dans l'école à tous les niveaux. L'idée en quelque sorte que nous, aujourd'hui, nous sommes dotés non certes d'un savoir absolu, mais d'une sensibilité absolue. Nous sommes sensibles à toutes les discriminations, comme aucune époque avant la nôtre. Résultat, les textes du passé sont convoqués pour qu'on puisse traquer en eux les stéréotypes. Le passé n'enseigne plus. Le passé, le présent est un tribunal et nous vivons sous l'égide de ce que j'appellerais le chauvinisme du présent. Dans le livre que vous avez co-dirigé, Emmanuel Hénin, Claude Habib parle de Tiphaine Samoyo, professeur qui est aussi critique littéraire au Monde. Et elle s'est félicitée à la radio d'enseigner uniquement les auteurs contemporains en ajoutant que ses collègues 19e-istes avouaient en privé combien ils souffraient d'avoir enseigné des textes, ces textes chargés de stéréotypes. Elle cite aussi Léon Moscato, vous savez, ce metteur en scène qui avait cru devoir changer la fin de Carmen. C'est elle qui tue Don José. Et parce que c'est la revanche des femmes contre tous les féminicides, comme si, effectivement, le public, à la fin de Carmen, se réjouissait de la mort de Carmen, ce qui est quand même... Mais c'est un rapport des metteurs en scène à l'égard des œuvres très révélateur. Les œuvres, on les convoque et on les redresse. Notre temps est un redresseur de tort. Et il me semble que ça, c'est une tendance lourde et on peut l'imputer au wokisme ou à la wokeness, Alain Policarpe.
Alors, je n'avais pas fait la distinction. La wokeness, c'est l'éveil aux discriminations et c'est une attitude normale en démocratie que d'être de plus en plus sensible, pour reprendre votre expression à la fin de l'autre, de plus en plus sensible aux discriminations. Je me demande d'ailleurs ce qu'il faudrait être si on ne doit pas être éveillé. Faudrait-il être assoupi par rapport à tout ça, si vous voulez. En l'occurrence, je me réclame des Lumières et je crois que les Lumières, c'est cette tentative d'éveil. Kant n'a-t-il pas dit qu'il était sorti de son sommeil dogmatique par la lecture de David Hume? Donc, par conséquent, il y a cette idée que l'éveil est quelque chose de fondamental dans la marche de la démocratie, que je revendique, mais je dis, pour que ce soit bien, bien précis, que il y a des écueils dans lesquels la wokeness ne doit pas tomber, ou alors elle se transformerait en wokisme, et vous avez notamment cité l'essentialisme inversé, et ça répond aussi à votre question. Je ne crois pas que parce que l'on est dominé, on doive ériger sa différence en valeur absolue. Je suis universaliste fondamentalement, même si le mot universaliste a plusieurs sens et est brandi comme un opérateur de d'illégitimation par certains. On a d'ailleurs considéré que j'étais un anti-universaliste parce que je critiquais devant ma porte, en quelque sorte. Je critique la façon dont l'Occident a pu mettre, par la colonisation notamment, en œuvre les idéaux universalistes. C'est pas la même chose. Universaliste, on doit toujours se poser la question de savoir qui énonce une proposition universelle. Quand, dans la Constitution américaine, dans la Déclaration d'indépendance américaine, 1776, on dit « tous les hommes ont été créés égaux par Dieu », qui écrit ça? Ce sont des propriétaires d'esclaves. En revanche, quand Olympe de Gouges fait la déclaration de la femme et la citoyenne, ça semble être une déclaration très particulière, mais elle est fondamentalement universelle, parce qu'elle tient compte d'une situation inéquitable qui est celle des femmes de l'époque et qui continue largement à être celle des femmes aujourd'hui.
Emmanuel Hénin.
Oui, alors c'est vrai que une des caractéristiques de ce mouvement, c'est de remplacer le vrai par le bien. Nous ne croyons plus à la vérité, nous ne cherchons plus la vérité qui a été largement disqualifiée par les Foucault. Non mais je ne parle pas de vous spécialement, je parle du courant.
Oui, mais moi je suis là pour défendre mes positions, pas pour défendre les positions d'un tiers. Moi la vérité, c'est une valeur fondamentale.
Moi je suis là pour le public, je suis là pour que le public comprenne qu'à l'université, en particulier les studies et ce qu'on appelle les savoirs situés, hein, c'est-à-dire la science décolonial, queer, etc., qui rappelle quand même vaguement une certaine science prolétarienne ou une certaine science juive, etc., est là pour revendiquer de parler au nom du bien et non plus au nom du vrai. À partir de là, le passé est soit absorbé, Shakespeare est antiraciste, soit annulé. Et je voudrais juste vous citer une phrase que j'ai trouvée dans un rapport de thèse très récent, rapport de thèse de littérature. Est-il admissible en 2020 de consacrer une thèse doctorale entière à 6 hommes blancs?
Alors moi, je voudrais justement aller dans ce sens d'un chauvinisme du présent, parce que vous dites, c'est l'éveil, la wokeness. Et effectivement, woke veut dire éveillé. Mais les classiques ont été très longtemps des textes qu'on abordait avec une ferveur préalable et une mystérieuse loyauté. C'est l'expression de Borges. Aujourd'hui, on regarde derrière soi, mais pour montrer tout le chemin parcouru. On regarde le passé pour le déconstruire. Pour le déconstruire. Donc, si vous voulez, il y a le rapport au passé a complètement changé. Et en guise d'éveil, on a une sorte de clôture, de fermeture sur soi d'un présent qui, encore une fois, se rengorge de sa sensibilité. Ce qui manque au woke, pour être vraiment éveillé, c'est un peu d'humilité. Un peu d'humilité devant les grandesses, devant notre héritage. Alain Policarpe.
Oui, mais on ne ferait pas endosser cette critique de notre passé littéraire, encore une fois. Il faut distinguer ce qui appartient à l'art, à la littérature. Alors, il y a des œuvres, effectivement, qui peuvent poser des problèmes, mais dans ces cas-là, il faut les discuter, il faut éventuellement écrire des articles critiques, mais évidemment, en aucune façon, limiter leur diffusion. Sur l'exemple de Carmen que vous avez pris, il y a une très grande liberté au metteur en scène. L'exemple est évidemment un peu caricatural, il change radicalement la fin, et on peut effectivement être heurté, je peux le comprendre parfaitement. En revanche, en ce qui concerne des problèmes qui rentrent dans ce qu'on appelle la culture et l'annulation, le déboulonnage de statues, c'est quelque chose qui peut parfaitement être admissible. Personne n'a protesté lorsqu'on a mis à bas les statues de Staline, de Mussolini, d'Hitler, etc. Donc quand on met à bas les statuts d'esclavagistes, ça n'est pas particulièrement choquant. Et puis il y a un mot que vous avez utilisé au début de l'émission sur lequel nous ne sommes pas revenus, c'est le mot appropriation culturelle. La culture n'appartient à personne. Mais néanmoins, on sait bien que certaines œuvres ont été pillées lors des opérations coloniales. Et par conséquent, je trouve légitime que des pays qui ont été pillés, notamment, on cite toujours les mêmes exemples, je ne vais pas y revenir, mais que des pays qui ont été pillés puissent revendiquer le retour des œuvres, ça paraît tout à fait essentiel, et ça n'a rien à voir avec l'appropriation culturelle au sens strict, si vous voulez.
Mais en même temps,
c'est la réparation des torts.
Emmanuel Hénin.
Oui, je voudrais dire deux choses. D'une part, c'est différent de déboulonner la statue d'un dictateur en place ou qui vient de disparaître, comme Staline, et de déboulonner une statue qui appartient à l'histoire et à l'art de Joséphine de Beauharnais, ou même de Gandhi, quand même, ou de Victor Schœlcher, qui existe depuis plusieurs siècles, et qui est un monument de mémoire et d'histoire.
Mais bien sûr,
c'est tout à fait différent. Moi, je comprends très bien qu'on déboulonne Staline quand toute la famille a été au goulag. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'il faut quand même faire la différence. Et par rapport à l'appropriation culturelle, c'est très intéressant parce que c'est un mot qui révèle le fonctionnement métaphorique du langage woke, cette langue performative et assez pédante qui prétend créer une réalité qui est en réalité fantasmatique. En effet, cette appropriation porte sur des réalités dont personne n'est propriétaire, par définition. L'appropriation d'une culture ne dépossède personne. Je vous rappelle quand même que poétesse...
Hein.
Oui, mais ce n'est pas contre vous que je dis, c'est pour l'instruction du public qui n'aurait pas compris. Quand la poétesse noire Amanda Gorman ne peut pas être traduite que par une femme noire... ça n'enlève rien. On a crié à l'appropriation culturelle.
J'ai d'autres exemples. Une toile de Dana Schultz qui représentait le corps mutilé d'Emmanuel Till, un jeune homme accusé d'avoir séduit une blanche et lynché en 1955. Cette toile a été présentée au Whitney Museum et ça a fait scandale. Mainmise sacrilège d'une artiste blanche sur une victime des siens, Catherine Bigelow, qui a fait un film sur les émeutes de Détroit en 1967. Eh bien, elle a été accusée de dérober la colonne noire à ses propriétaires légitimes. Et puis, sur le déboulonnage.
Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ça.
Oui, mais ça existe. Mais vous êtes d'accord avec rien, alors, finalement.
Non, mais je suis d'accord avec le fait que certains... Non, mais je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit un système. Mais que des actes que vous dénoncez à juste titre soient commis, je ne peux pas le nier. C'est la réalité. Je ne suis pas obtus devant les faits. Maintenant, il faut, je crois, bien souvent examiner les choses dans le détail. Ce que vous ne faites pas toujours, parce que moi, je voudrais quand même dire que vous donnez quand même... dans l'Observatoire des leçons d'éthique universitaire, mais à la note 4 de votre ouvrage, de l'introduction, vous parlez de quelque chose qui me semble quand même tout à fait significatif des procédés des anti-wokistes. Vous parlez de l'Université d'Exeter, qui a mis en place un master de sciences occultes, de magie, d'ésotérisme, etc. Quand on regarde le site, ce que n'importe qui peut faire, puisque vous voulez que le public soit instruit, on peut aller regarder le site de l'université, ce n'est pas du tout un master de sciences occultes, de magie, mais d'histoire des sciences occultes et de magie. Un master interdisciplinaire, précisément pour montrer que les étudiants qui sont très souvent soumis à de l'irrationnel obscurantisme doivent être instruits, et instruits en plus sur le fait que ça ne concerne pas que l'Occident, que ça concerne toute la surface de la Terre, cette tendance à l'obscurantisme, à l'irrationnel. Donc c'est un master qui vise à lutter contre l'obscurantisme que vous appelez woke, vous. Et non pas ce que vous en dites. C'est quand même très grave de dire qu'il y a la magie enseignée comme discipline, alors qu'il s'agit d'un master d'histoire. Et la même chose vaut pour le Canada, pour l'université Waterloo. Vous avez dit des choses inexactes qui m'ont été rappelées par mon ami Michael Nafi, qui est un spécialiste du Canada et de ces histoires-là, et je l'en remercie.
Alors, il y a un autre thème que j'aimerais aborder, c'est justement autour de Trump, l'apparition d'un wokisme de droite. C'est une expression que j'ai lue dans un article de Martin Barnier dans le Figaro, et c'est très intéressant. James Lindsay, qui s'est rendu un peu célèbre parce qu'il avait écrit un article sur les viols de chiens dans les parcs de Portland.
Et les vols.
Hein?
Les vols.
Non, les viols.
Les viols.
Les viols.
Les viols. Les viols.
Ah bon,
dans
d'accord.
Les parcs de Portland. Et ça avait été publié dans une revue scientifique, justement, Woke. Et donc, il s'inquiète justement de l'émergence d'une idéologie très dangereuse qui en passerait par des blagues antisémites ou contre les Noirs, et ceux qui ne rient pas sont désignés comme « Republicans in name only », les républicains simplement de nom. Et un influenceur dit par exemple que Churchill est le plus grand méchant de la Seconde Guerre mondiale. C'est comme si la politique des identités à gauche, hein, la gauche rompant avec sa tradition libérale, avait réveillé à droite une identité blanche qui ne demandait qu'à s'exprimer. Et est-ce qu'on est condamné justement aujourd'hui à ce face-à-face du trumpisme et de cette droite woke et macartiste et du wokisme qui peut sévir dans certaines universités. Emmanuel Hénin.
Alors, il est clair qu'il faut se garder du mimétisme des extrêmes et que le trumpisme est le meilleur allié du wokisme. La preuve, c'est que Trump a été élu, largement grâce aux excès woke, largement en réponse aux excès woke. On trouve en effet dans le trumpisme et dans le wokisme le même manichéisme, le même appel à la censure, le même fonctionnement par mots-clés, puisque l'État américain proscrit maintenant un certain nombre de mots. Intersectionnalité, antiracisme sont proscrits dans les sujets de recherche alors qu'ils étaient prescrits de l'autre côté. Et il est clair que nous ne préconisons absolument pas cela et qu'il faut se garder... Toujours balayer devant sa porte, en effet, et se garder des deux excès. Et j'ajoute que notre livre vise précisément à éviter l'élection d'un Trump français, qui aurait le privilège de définir la femme comme un individu du sexe féminin, puisque c'est quand même Trump qui a eu le mérite de le faire, puisque personne d'autre n'en était capable.
Alors, définir la femme comme quelqu'un de sexe féminin, moi, je n'ai pas beaucoup de difficultés à le faire, si vous voulez.
Le problème, c'est qu'en Angleterre, il a fallu un décret.
Vous serez mal vu par les vôtres.
Mais c'est pas grave, je n'ai pas de vôtres. Non, bah, en l'occurrence, ceux qui, à mon avis, assez rare, parce qu'ils s'intéressent à la façon dont le sexe, effectivement, est en quelque sorte joué, représenté par le genre, ne mettent pas en cause les différences biologique. Personnellement, je ne suis pas de ceux qui les mettent en cause. Je crois qu'il est absolument essentiel de considérer qu'il y a des différences qui ne sont pas évidemment des inégalités. Encore une fois, moi je ne sais plus ce que l'interpellation que vous m'avez faite tout à l'heure sur quoi elle portait, mais je réponds à Emmanuel sur la question de l'élection présidentielle américaine. Harris n'a jamais mobilisé cette thématique woke, jamais. Ni sa couleur, ni quoi que ce soit.
Ah oui,
jamais.
Non.
Ah ben écoutez, il faut lire les articles de sciences politiques sur cette question-là. Dire que Trump a gagné parce que la campagne a été wokiste, c'est une thèse que je n'ai lue nulle part.
Alors, elle a juste proposé de rembourser les opérations de réassignation sexuelle pour les migrants incarcérés.
Mais c'était en 1920, c'était lors de sa précédente campagne. Effectivement,
2020,
ça a été rappelé. 2020. 2020, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ?
1900.
Oh là là, il est temps que ça s'arrête. Et donc, donc dans la campagne de 2020, mais il n'empêche que la thématique woke a été souvent citée par Trump et par ses partisans comme une insulte au sens commun, notamment la différence des sexes. La question de la différence des sexes a joué malheureusement un rôle dans l'élection. Et de voir Trump, cette brute épaisse, si vous voulez, s'approprier la décence commune, ça pouvait faire mal au cœur.
Je suis d'accord avec vous. Le sens commun ou la décence commune, ce sont des notions qui me sont chères, mais le plus souvent, les anti-wokistes parlent de bon sens. Ils n'ont pas de sens commun. Sens commun, je serais assez d'accord. C'est la philosophie que j'apprécie beaucoup, celle de Thomas Fred, par exemple, Shelsbury et tout ça, ce sont des auteurs qui sont importants pour moi. Mais le bon sens, c'est plutôt... soyons méfiants par rapport à l'élitisme académique. C'est ça que ça veut dire. Ah oui. Trump, c'est cela.
Et alors, un dernier mot, que pensez-vous de l'initiative d'étudiants de Cambridge qui se sont insurgés contre la célébration du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven au motif que le compositeur était « too pale, too male, too stale », trop blanc, trop masculin, trop rance.
Qu'est-ce que c'est ridicule. Écoutez, la bêtise et l'ignorance sont les choses les mieux partagées, je ne suis pas le premier à le dire. Oui. Je trouve ça ridicule, voilà.
Vous trouvez ça ridicule. Donc vous êtes un woke en lutte contre les excès du wokisme.
Je ne suis pas un woke, je suis un éveillé.
Vous êtes un éveillé.
Non, parce que le mot woke, encore une fois, a une coloration absolument polémique. Et en plus, il n'y a pas de manifeste woke, il n'y a pas d'auteur qui s'en réclame, sauf tout récemment Thévanian, qui dit grosso modo « les bons sentiments, moi, je les trouve utiles. La séparation entre la morale et la politique demande à être interrogée. » Et je suis d'accord avec ce point de vue-là, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que Thévanian peut dire par ailleurs.
Bon, merci beaucoup en tout cas à tous deux. Emmanuel Hénin, je rappelle que vous avez co-dirigé avec Xavier Laurent Salvador et Pierre Vermeren un livre publié au PUF, Face à l'obscurantisme woke, et Alain Policard, vous êtes l'auteur de « Le wokisme n'existe pas, la fabrication d'un mythe » aux éditions Le Bord de l'eau. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Adrien Gazza. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre La question de l'héritage. Mes invités seront Mélanie Plouvier et François-Xavier Bellamy. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.